France Inter.
Ce sujet était retenu parce qu'il nous intéresse en tant qu'adolescents et c'est surtout parce que en tant qu'adolescents, on est dans la période où on peut débuter nos premières relations sexuelles. D'autant plus que la sexualité, c'est un peu un sujet tabou et qu'il passe à la radio, ça pourrait aider à tranquilliser chacun.
Interclasse, Éric Valmire sur France Inter.
Les valeurs. Il est impressionnant ce mot, pas simple à définir. Quand les élèves, répartis dans une quinzaine d'établissements, investis toute l'année par les journalistes, les techniciens, les productrices et producteurs, attachés de production, et même des étudiants en journalisme au contact des CDI dans les collèges et lycées, c'est ça le principe d'interclasse, quand ces élèves devenus protagonistes de l'info ont souhaité aborder la thématique des valeurs, waouh, on s'est dit qu'on en avait pour des heures. Valeur dans le dictionnaire, ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel, et qui est donné comme un idéal à atteindre, quelque chose à défendre. Sur l'idéal à atteindre, ou quelque chose à défendre, on entend tout et son contraire sur les jeunes. Soit feignant, s'intéresse à rien à part sa console, ou encore trop engagé, immature, violent, ne pense qu'à l'argent facile. Bref, cette interclasse veut donc s'attaquer au socle de valeurs que ces jeunes veulent défendre, à commencer par... Quel serait un des sujets majeurs dans l'échelle de valeurs? Eh bien, en premier lieu, c'est le bien-être animal. Demi-surprise, car chez les jeunes, devenir vétérinaire plus tard, ça revient souvent, même si ensuite on est découragé par le parcours. Le bien-être animal, les collégiens de Waterloo dans le Nord en ont carrément fait un reportage.
Au zoo, j'ai vu un suricate et je me suis demandé si ce petit gars avait des droits. En France, le sujet du bien-être animal revient de plus en plus. Avec mes trois camarades, Atim, Souhaï et Ahmed, élèves de 3e au collège Émile Zola à Waterloo, nous allons explorer ce sujet ensemble.
Mais en fait, les animaux ne sont pas humains. Auraient-ils des droits? Pour bien comprendre, on a contacté une avocate spécialisée dans le droit animalier. Pour répondre, Maître Richaud utilise le code civil.
En France, comme partout ailleurs dans le monde, il y a eu un éveil des consciences sur le caractère sensible des animaux, sur le fait qu'aucun être ne souhaite souffrir ni mourir. Et il y a plusieurs courants philosophiques, mais aussi des prises de conscience spontanées des individus sur le fait que l'animal est donc un être vivant doué de sensibilité, et ce qui a d'ailleurs été reconnu il y a quelques années dans le Code civil, dans le cadre de l'article 515-14.
On s'est rendu sur place au zoo de Lille et on a discuté avec M. Verfailly de l'association Les Amis du zoo de Lille. Après nous avoir affirmé que les animaux étaient en bonne santé, il a expliqué que les choses avaient bien changé.
Il y a eu une date décisive quand même qui était au début du 20e siècle en Allemagne, un monsieur qui s'appelle Hagenbeck qui a inventé les ours en barreaux. Avant c'était carrément des prisons, il faut bien le dire, les ménageries de l'ancien temps, comme on les appelait, au 19e siècle, c'était vraiment des prisons où le but unique était de montrer des animaux dans des conditions vraiment de captivité très très difficiles. Au début du 20e siècle, en 1907, je pense, ce monsieur en Allemagne invente le zoo sans barreaux, donc avec des enclos, des fossés, des vitres, des choses comme ça. Ça a déjà beaucoup amélioré la situation des animaux. Aujourd'hui, vraiment, il y a un soin énorme qui est apporté au bien-être des animaux. Les enclos sont améliorés en permanence, on leur donne des jeux, on répartit la nourriture pour qu'ils aient un peu à la chercher, par exemple, etc. Bon, ça reste une captivité, hein, on ne va pas se cacher. Mais aujourd'hui, tout est fait pour le bien-être des animaux et donc ça me paraît aujourd'hui tolérable, quoi.
Au-delà du point de vue légal ou moral, comment la santé des animaux est prise en compte? Annelise, soigneuse animalière au zoo d'Amnéville.
Il y a beaucoup de faux trucs qui circulent parce que ceux qui sont contre les zoos, forcément ils prennent une photo qui va être sortie du contexte, qui n'aura rien à voir avec la réalité, et puis ils vont déverser là-dessus. Mais en fait, c'est pas la réalité, nous, dans notre quotidien, quoi.
Pour Annelise, dans les zoos, les soigneurs sont d'abord des passionnés des animaux.
Qu'on soit pour ou contre les zoos, le bien-être animal est de plus en plus présent. Il restera au cœur des prochaines questions de notre société.
C'était Hachim, Souhaïd et Ahmed pour le projet Interclasse.
Et merci à vous. Vous étiez accompagné d'Héloïse Drouet de l'ESJ Lille. Si la question du bien-être animal est autant portée par les nouvelles générations, c'est aussi en réaction aux cas de maltraitance. Les vidéos de L214 médiatisées, ces vidéos qui documentent les exploitations agricoles aux pratiques très contestables. Et justement, un lycée agricole, c'est d'ailleurs une première, un lycée agricole dans Interclasse, le lycée Carnilien de Guingamp, bienvenue, la parole des jeunes agriculteurs en devenir qui ont voulu interroger des éleveurs dans la campagne bretonne, à commencer par Sarah Lanez dans son exploitation de Couanec-Lanvézec. Pas de doute, on est bien en Bretagne.
Pensez-vous que vous respectez le bien-être animal ?
Je pense que oui. Nos truies, nos vaches, ce sont des athlètes et on les considère telles quelles. Et donc on les accompagne aussi telles quelles.
On a donc fait le tour de 3 exploitations agricoles, avec pour chacune sa propre philosophie d'élevage. Reportage de Kyo, Tiphaine, Armand, Mathéo.
Alors on a un atelier laitier, et sinon donc on a un atelier porcin, où on a une centaine de truies naisseurs engraisseurs, où on livre un peu plus de 3000 cochons à l'année. Donc nous on a évolué, c'est qu'on a arrêté le meulage des dents quasiment dès le début. Là on est en réduction assez drastique de la caudectomie, donc le coupage des queues.
S'occuper d'une centaine de truies au quotidien, ce n'est pas rien.
Les truies vivent ici dans un bâtiment hors sol avec des critères de biosécurité stricts. En clair, cela veut dire que dès la naissance, les porcs grandissent sans voir la lumière du jour.
C'est pourtant, est-ce que voir l'extérieur pour une bête, c'est pas important ?
Alors, je pourrais vous retourner la question, quelqu'un qui est né en HLM et qui a toujours vécu en HLM, est-ce qu'il considère qu'il est malheureux ou pas ? Voilà, c'est exactement la même chose. Là, ils ne connaissent que cet environnement-là. Ils sont bien dans cet environnement-là parce que les performances techniques le démontrent. Après, je suis pas certaine. Là, si je mets mes truies dehors, déjà, je suis sûre qu'elles meurent assez rapidement parce qu'elles n'ont pas l'immunité pour. Elles aiment pas le froid. Il y a des prédateurs qu'elles n'ont pas en bâtiment. Nous, on y retrouve en tout cas notre équilibre. J'ai un très bon relationnel avec mes animaux. Donc, non, je considère qu'ils sont bien et ils le démontrent bien aussi.
L'idée dans ce reportage, c'était bien de questionner plusieurs modèles d'élevage. Donc on a repris le minibus du lycée sur les petites routes pendant une dizaine de kilomètres.
Bonjour, je m'appelle Alain Squarneck, je suis éleveur, futur retraité, j'ai 62 ans. En élevage biologique depuis 30 ans, une partie bovin allaitant en Limousine et un petit élevage de porcs, naisseur-engraisseur de 8 truies. On produit une centaine de porcs par an qu'on vend en circuit court. Donc on essaie d'adapter la production exactement à ce qu'on vend en circuit court. On ne veut pas ou éviter de vendre en circuit long. Chacun a sa notion du bien-être. J'ai un ami qui élève 800 truies en naisseur-engraisseur, en industriel. Il n'a forcément pas la même opinion sur le bien-être du cochon que moi. Mais c'est des sujets qu'on n'aborde jamais ensemble. Voilà. Je sais pas, le bien-être, c'est tellement vaste que... Est-ce qu'il faudrait pas arrêter de manger de la viande pour que les animaux soient vraiment heureux ? C'est une question, hein. C'est pas... J'ai pas la réponse.
Pour Alain Squarneck, s'il n'y a pas d'élevage en plein air, il n'y a pas de bien-être animal.
Pourtant, les élevages en plein air comme le sien représentent seulement 2,7% des chiffres.
Plus ils passent de temps dehors, mieux c'est.
Pascal Goriou a 57 ans, une exploitation de 80 vaches laitières en pâturage depuis 1928. Des vaches qui passent leur temps dehors, comme les porcs d'Alain Squarneck.
Là, c'est pas chez moi, hein. C'est chez elles. C'est-à-dire que si on va dans le troupeau, c'est plus chez moi. C'est leur environnement à elles. Donc je vais pas arriver là en barbare. Non, non, je me fais tout petit, je m'y miche chez elles. Et quand on peut naviguer comme ça entre elles sans qu'elles ne bougent, qu'elles ne soient dérangées, moi c'est un signe.
Tous les témoignages des éleveurs nous montrent qu'ils ont à cœur de veiller au bien-être de leurs animaux. Une conception du bien-être qui diffère selon les systèmes d'exploitation. Pour autant, les producteurs ne sont pas les seuls responsables. En bout de chaîne, les consommateurs ont aussi un rôle à jouer.
Un sujet sous la houlette de Fanny Léonore Crouzet et Mélite Deret-Binois, diplômée de l'IUT de Lannion.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
Responsabilité collective, le mot a donc été lâché. Une notion que l'on retrouve dans la défense de l'environnement. On dit souvent d'ailleurs que l'urgence climatique est l'affaire d'une jeunesse engagée. Le climat, en effet, deuxième valeur choisie par les jeunes d'interclasse. Mais avec une approche qui diffère d'un collégien à l'autre. Exemple à Waterloo, au collège Émile Zola.
Je m'appelle Zoé Sversweger.
Je m'appelle Liasid Garnier.
Je m'appelle Amjad Tawag.
Je m'appelle Nazim Bajadi.
On dirait qu'on crame sous l'effet de serre, qu'on plonge nos villes dans le néant, dans le désert. On dirait que le temps presse et qu'on ne bouge pas un cil, qu'importe si demain on venait à manquer d'air.
S'il y a un sujet dont on entend souvent parler en ce moment, c'est bien le réchauffement climatique.
Personnellement, je ne suis pas très inquiet à propos des dangers du réchauffement climatique. En soi, quelques degrés de plus, ça fait plaisir. D'après moi, si la planète meurt, c'est qu'elle devait mourir. Mais j'apprécie pas vraiment voir les déchets dans la rue, la mer ou les forêts. Et vous, vous en pensez quoi ?
C'est bizarre de penser comme ça. C'est comme si c'était déjà classé. Pense à tes futurs enfants.
C'est égoïste de penser comme ça. Toi, tu es content qu'il fasse plus chaud, mais tu ne penses pas à la fonte des glaciers ou aux ours polaires.
Personnellement, j'ai le même avis que Lies, dans le sens où ça ne m'intéresse pas, puisqu'on ne peut pas changer une fatalité. Mais je n'aime pas les grosses chaleurs, donc le réchauffement m'embête un peu. D'ailleurs, selon moi, il y a différentes sortes de pollution, dans le sens où jeter des déchets à terre n'a pas vraiment de sens, mais la pollution créée par les transports ou les usines est utile puisque cela fait fonctionner le monde qui ne marcherait pas sans elle.
On ne peut pas arrêter la pollution, mais on peut la limiter. Par exemple, commencer par utiliser les transports en commun ou la marche. Je pense qu'on peut toujours ralentir les choses. Je trouve que les actions mises en place pour l'écologie ne sont pas assez mises en avant.
Le réchauffement climatique, c'est aussi la forêt qui brûle en Amazonie, Australie et même en France. Ça m'a rendu triste pour les arbres et les animaux. Pour autant, on ne change pas nos habitudes.
J'ai l'impression que beaucoup de personnes parlent de ce sujet, mais qu'au fond, rien ne change.
Même si on n'est pas d'accord entre nous. On s'est intéressé aux actions menées dans notre ville et avons interrogé Monsieur Chenevière, qui travaille à la mairie, que nous allons laisser se présenter.
Je suis directeur général adjoint des services, en charge d'un service qui s'appelle la Ville Nature, pour la ville de Waterloo, dans le nord, où nous sommes actuellement.
Il a fait 14,5 degrés en moyenne en France, en 2022, selon Météo France. C'est un record, donc est-ce que l'environnement est une priorité pour vous ?
C'est une priorité pour nous, mais je pense que ça devrait être une priorité pour tout le monde. C'est-à-dire que même à l'échelle d'une ville, pourtant c'est une grande ville, une ville de 43 000 habitants, mais on peut pas faire grand-chose. Mais si chacun s'y met, si chacun fait un peu d'effort, par exemple en essayant d'atteindre la neutralité carbone, en essayant de refleurir, de replanter, en essayant effectivement d'économiser les ressources, eh bien je pense que si chacun s'y met, on devrait pouvoir y arriver.
Est-ce que c'est possible d'avoir une ville zéro déchet ?
Il me semble que c'est très très compliqué effectivement, parce qu'aujourd'hui il faudrait que ce soit un monde zéro déchet, parce que les déchets, c'est pas nous qui les fabriquons. Quand on va au magasin, les emballages existent toujours. Nous pouvons être acteurs de ça en choisissant ce que nous allons acheter. On a encore énormément de gens qui, on ne sait pas pourquoi, se garent dans un coin, derrière un trottoir, et puis jettent toutes leurs sacs poubelles sur le trottoir, au lieu d'aller le porter à la déchetterie. Donc on a même fait une délibération, ce qui est une sorte de décision prise par Monsieur le maire, pour mettre des sanctions et des amendes aux gens qu'on attraperait à jeter des sacs ou des déchets. Donc ça, on le fait. Il y a des gens qui reçoivent des amendes parfois très importantes pour avoir jeté sur la voie publique.
Voilà, c'est malheureusement déjà fini. Merci de nous avoir écoutés. Et vous, vous pensez que la planète a encore une chance ?
La question mérite d'être posée, mais la réponse de tes copines de classe à Waterloo dans ce même collège Émile Zola va certainement te surprendre. Rienne, Maëline, Amélia, Lina et Tiffen ont choisi de parler de la collapsologie en réaction. Oui, oui, la collapsologie.
La collapsologie, c'est l'idée de l'effondrement, donc ce qui pourrait se passer dans la société. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent engendrer la collapsologie. Il y a la disparition d'espèces animales, les conditions météorologiques, la pollution, l'inflation aussi.
La disparition des animaux, il y a la disparition des abeilles à cause des pesticides. Et les abeilles, ils sont d'excellents pollinisateurs et donc ça nous touche.
Qu'est-ce que vous voyez dans vos vies à l'heure actuelle qui vous rappelle ce concept-là ?
Tout a augmenté. Plus tard, on se demande encore si on va savoir vraiment vivre ou pas.
Là, on parle d'argent, quoi d'autre ?
La pollution, l'échauffement climatique.
En tout cas, moi, ça m'inquiète. Enfin, plus tard, ça va s'aggraver. Aussi pour nos enfants, plus tard.
que plus les générations vont avancer et plus ce sera pire, pas pour le monde, pour la société.
Vous sortez de l'enfance et vous vous inquiétez déjà pour vos enfants finalement.
Oui. Bah, ça nous donne envie d'agir. On a vu, enfin au tout début du projet, on a vu une vidéo qui disait que pour arrêter la collapsologie, donc l'effondrement de la société, les scientifiques disaient qu'il fallait arrêter la pollution, enfin au maximum arrêter la pollution.
Est-ce que ça vous donne envie d'apprendre? D'apprendre ce qu'est en fait la question du climat notamment, ou la pollution, comprendre les phénomènes. Est-ce que ça vous donne envie ensuite de vous engager dans des associations, enfin de consacrer votre vie à ça ou pas?
Je dirais pas consacrer ma vie entière à ça. Mais oui, faire des choses contre ça, oui.
Ça reste notre avenir en jeu. Ouais, il faut agir.
Mais ce sera pas vous, Tiffaine.
Bah, c'est compliqué pour nous, de notre statut, de contrer ça, parce que c'est surtout les grosses industries, je pense, qui jouent un rôle important sur l'idée de la collapsologie. Donc, faudrait arrêter, par exemple, l'industrie de la viande, enfin, en tout cas, la réduire. Pareil pour les vêtements.
Le fait de se battre pour une cause, d'adhérer à des associations.
Ah. Oui, ça.
Vous l'avez fait?
Non.
Pas encore.
Vous comptez le faire?
Probablement.
Peut-être, oui.
Et un grand merci à Héloïse Drouet et Prune Benedini de l'ESJ Lille qui ont suivi cet espace de réflexion autour du climat et de la collapsologie. Encore une fois cet été, Billie Eilish dans le choix musical des élèves d'Interclass. Everything I Wanted.
I had a dream.
Ah bon? Raconte.
I got everything I wanted.
J'en étais sûr.
Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here they don't deserve you. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. But I don't wanna let anybody know, 'cause everybody wants something from me now.
Les valeurs, le sujet d'Interclasse aujourd'hui, on a vu le bien-être animal, le climat, la lutte contre la pollution, et maintenant une valeur essentielle, miam miam, manger, et là c'est vaste. Ce qu'il y a dans l'assiette, on peut par souci de transition se dire que ça concerne l'agriculture. Et en effet, nos secondes du lycée de Carnilien à Guingamp ont déjà en tête ce qu'ils comptent faire plus tard. Car la qualité de notre alimentation qui en découle est aussi une valeur centrale. Les futurs agriculteurs avec Élodie Wilfrit et Capucine Rouault.
Personnellement, mon projet professionnel est de s'installer en vache laitière pour commencer avec 70 vaches laitières. J'aimerais commencer avec au moins 70 hectares.
C'est un rêve de gosse, ça ?
En vrai, ouais. J'ai toujours aimé tout ce qui concerne l'élevage, particulièrement les vaches laitières. J'ai toujours été passionné par la production de lait, ouais. Depuis tout petit, ouais.
Et Clara, toi, c'est quoi ton projet ?
Donc moi, ce serait de m'installer avec des moutons pour faire de la viande, avec à peu près 450 mères, 20 béliers, donc ce qui fera un total d'un peu plus de 400 agneaux par an, avec à peu près 200 hectares comme terre.
Et toi, Yenora, t'es la seule des trois, je crois, qui est tombée dans l'agriculture, mais qui vient pas du tout de ce milieu.
Non.
Raconte-nous un petit peu.
En fait, au début, je voulais être gendarme. Et vu que j'aime beaucoup le comportement du chien, les chiens en général, du coup je me suis dit pourquoi pas devenir maître chien. Et j'ai été refusée dans les lycées de sécurité. Et je savais pas du tout où je voulais aller. Et vu que j'aime beaucoup les animaux, bah, je me suis dit pourquoi pas aller en lycée agricole pour voir ce que ça donne. Depuis que je suis à Carnilien, j'ai découvert le monde agricole, la ferme, les vaches, les cochons, les poules, tout ça. Depuis là, j'aimerais bien m'installer en vache laitière. Et j'ai aucun rapport avec l'agriculture parce que ma mère, elle est coiffeuse à domicile.
Quand on pense au modèle agricole, on pense au bio, à l'intensif. Vous, pour vos futurs modèles d'exploitation, vous avez choisi quoi ?
En élevage conventionnel, l'agriculture basique. Et puis, c'est peut-être pas le mode le plus écologique, mais le plus efficace. C'est un gain de temps.
Pour la productivité ?
Ouais, voilà.
Ok, parce que du coup, ce qui t'intéresse, toi, c'est de produire le plus possible ?
Le plus possible et puis le plus rapidement. Quoi.
Tu as quel âge ?
16 ans.
Et en gros, ce serait à quel horizon ?
Quand j'aurais 23 ans, 24, je prends mon temps. Quoi.
Et mais tu commencerais dans une autre ferme pour apprendre ?
Ouais, je commencerais dans une autre ferme. Après.
Comme Yanis, j'aimerais bien m'installer en conventionnel aussi. Ce serait pour avoir un meilleur rendement sur les cultures et sur la reproduction aussi. Plus tard, je sais pas trop quand j'aimerais bien m'installer, mais j'aimerais bien faire un BTS PA, donc production animale, pour vraiment connaître tout sur les vaches et pas passer à côté de choses importantes.
Et toi, Clara ?
Moi, ce sera en conventionnel, mais un peu comme en bio, parce que je ne ferai pas des traitements de produits phyto sur des parcelles qui n'en ont pas besoin. Je ferai juste ça au dernier recours si j'ai pas d'autres solutions. Parce qu'on entend beaucoup parler, en conventionnel, on pollue beaucoup, c'est que de l'intensif. Donc autant faire du conventionnel, mais sans être intensif, en faisant totalement attention.
Est-ce qu'il y a des problématiques de santé aussi, peut-être, qui vous posent question ? La vôtre, celle des gens, avec l'utilisation de produits phytosanitaires ?
Oui, s'il y a des sacs de semences et tout ça qui sont traités, enfin, faut porter des gants, des masques, tout ça, enfin, pour protéger l'agriculteur.
Et pour utiliser des produits phytosanitaires, faut avoir le certiphyto, c'est un peu comme un diplôme qui dit que tu peux utiliser ça parce que tu connais les risques, tu connais les doses et tout ça.
On dit que votre génération est très engagée sur le climat. Pourquoi vous n'êtes pas plus écologique que ça ?
L'écologie, pas trop, non. C'est un sujet qui m'a jamais trop intéressé. Je ne me suis jamais trop posé la question. Quoi.
Vous ne vous voyez pas vivre en ville ?
Non.
Donc vous êtes proche de la nature ?
Oui.
Il n'y a pas une contradiction ? Vous aimez la nature ?
Oui.
Oui.
Je cherche pas à vous à vous piéger. Hein. Je vous pose simplement la question. Si vous êtes des amoureux de la nature, est-ce que vous vous sentez en devoir de la protéger ou pas ? Je sais pas. C'est vraiment une question sincère.
En devoir de la protéger ? Nous, on doit la protéger. En vrai, non.
Si.
Bah si,
quand même. Parce que si tu protégerais, imagine toi pour les clôtures, admettons pour tes vaches. Imagine, tu rases tous tes arbres. Tu mets tes vaches dehors. Tes vaches, elles auront ou de l'eau.
Oui, oui.
Par exemple.
Oui.
Tu vois. Puis même pour les oiseaux et tout ça, ils pourront plus faire leur nid, les insectes, tout ça.
Gros cas de conscience, Yanis, là, non ?
Bah oui.
Toi, Clara, ça a l'air d'être un sujet que tu as déjà réfléchi.
Moi, je suis en stage chez un agriculteur qui travaille comme ça. Et que je vois que malgré qu'il utilise des produits phytosanitaires, des engrais de synthèse, il a quand même de la vie dans le sol et autour de ses parcelles. Donc je me dis quand même que c'est pas que les produits phytosanitaires qui vont tuer tout ce qu'il y a dans le sol, en fait.
On dit aussi beaucoup de l'agriculture que c'est un métier très dur, pas forcément rémunérateur, compliqué. Ça ne vous fait pas peur ?
On est conscient que la filière qu'on est en train de faire là, c'est pas la plus facile. C'est une des plus dures. Et puis c'est sûr qu'agriculteur, tu fais pas des 8h-17h, quoi, en fait. Tu sais à quelle heure tu commences, mais tu sais jamais à quelle heure tu finis. Faut vraiment aimer ça, quoi. Enfin, si tu aimes pas ça, ça sert à rien que tu t'installes, en fait.
Mais après, si on part tout juste défaitiste dans le sens « Oh, l'agriculture, ça gagne rien, tout ça », c'est sûr que personne va s'installer. Et il en faudra toujours, donc c'est pas en partant comme ça que ça va avancer les choses. Et certains agriculteurs, et moi je vois où je suis en stage, il a 50 vaches laitières et il gagne très bien sa vie. Donc comme quoi, ça veut rien dire, en fait. Bah après, moi, je me vois pas être dans un bureau à travailler toute la journée. Moi, j'ai envie d'être dehors, et donc être avec mes moutons, c'est l'endroit où je me sens bien, en fait.
Se sentir bien est l'autre valeur essentielle. On peut dire globalement que cette quête ne concerne pas que les jeunes. Tout le monde veut se sentir bien. Si l'on parle du contexte, le territoire où l'on vit, un critère fondamental, et le vieux débat entre vivre à la ville, vivre à la campagne, n'est pas révolu. En Bourgogne, accompagnons Jean Porcher du Master Média et Création Numérique de l'Université de Bourgogne qui part de Dijon pour la pleine campagne.
Direction le lycée Désiré Nizard à Châtillon-sur-Seine en Côte d'Or. À notre arrivée, on a rencontré Amandine, Lali, Jeanne, Alexandre et Kelly. Ils se sentent d'abord éloignés, mais surtout, ils s'ennuient.
C'est un endroit qui est susceptible d'être plaisant pour beaucoup de gens, surtout les personnes qui vivent dans des milieux urbains. Parce qu'ici, on retrouve beaucoup de tranquillité. Mais le problème qui se pose surtout pour les jeunes, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez d'opportunités. Il n'y a pas assez de loisirs. Moi, par exemple, ma passion, c'est la danse. Et c'est vrai qu'ici, t'es obligé d'apprendre tout seul en autodidacte parce qu'il n'y a pas de cours.
C'est vrai que la campagne, ça offre beaucoup moins d'opportunités pour nous en tant que jeunes. Après, de là à dénigrer complètement la campagne, non, parce que c'est un cadre idyllique, c'est calme, c'est reposant. Donc voilà, c'est super d'y être, mais je pense que plus tard, j'essaierai de trouver un juste milieu entre justement avoir des opportunités et pouvoir me déplacer où je veux et quand je veux. Il n'y a pas longtemps, par exemple, on était à Paris avec l'école. C'est vrai qu'on voit tout le temps les gens courir hyper speed, et même nous, on pense l'être. Mais en fait, il y a vraiment un décalage entre les personnes qui vivent vraiment dans des villes où ça bouge de tous les bouts et il n'y a jamais le temps de respirer, et puis nous qui arrivons comme ça, c'est vrai que il y a vraiment un gros décalage, et je pense que pour s'adapter dans ce milieu-là, ça prend un sacré temps, même au niveau vestimentaire ou du comportement, c'est vrai que c'est sacrément différent. C'est impressionnant.
On va se polier avec les Parisiens, ça.
La ville, je connais un peu, mais c'est vrai que ça ne m'attire pas plus que ça. C'est vraiment un mode de vie qui ne m'attire pas du tout.
En fait, les personnes dans ville, de la ville, on se donne des préjugés des personnes de la ville, et les personnes de la ville nous donnent des préjugés à nous, ceux de la campagne. C'est comme si on n'avait pas la même culture, en fait. C'était comme si on était des étrangers. À mon avis, il y a toujours ce spectre de l'endroit d'où on vient, en fait, qui reste toujours à côté de nous.
Et si on écoutait un autre son de cloche, un rap en immersion dans Paris, c'est Dinos sur Inter.
Paris c'est 4 saisons en une journée, les gens ont la conscience dans le feu, ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je les ressemble, des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. Paris c'est 4 saisons en une journée, les gens ont la conscience dans le feu, ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je les ressemble, des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. Y'a peut-être quelqu'un qui s'est suicidé dans la baraque où tu vis. Y'a sûrement quelqu'un que tu connais qui pleure pendant que tu ris. Les animaux comprennent les hommes et peut-être pas le contraire. Le premier à voir serrer ta mère, c'est peut-être pas ton père. Je sais bien que parfois tu mens car t'es pas sûr de toi. Et que pendant que je parle avec toi, quelqu'un parle sur toi. Les diamants sur ta poitrine valent combien? Sache que les gens qui veulent ton cœur sont pas toujours les gens qui veulent ton bien. Pourquoi les gens pensent te connaître avec 2-3 questions? Pourquoi les gens que tu aimes sont pas toujours les gens que tu crois qu'ils sont? Un peu décalé, je pense. Tu sais que je suis parisien depuis le début du son, je fais que de parler des gens. Sur la rive droite, je vais m'ennuyer l'hiver. Sur la rive gauche, je vais m'ennuyer l'été. La ville m'a fait gagner des passe-droits illimités, mais m'a fait perdre mon immunité et mon humilité.
Paris c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je leur ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave ma nôtre. Paris c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je leur ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave ma nôtre. T'es sûrement pas le premier que Panama usé. T'es sûrement pas le premier que ta femme a sucé, mais tu l'aimeras quand même. Tu lui dis qu'avant elle, t'as connu que 5 meufs. Si tu lui disais le vrai chiffre, elle tomberait en syncope. Trop d'ego, trop de fautes. Y'a tellement de gens que j'aime dans la vraie vie, mais que je déteste sur les réseaux sociaux. Arrête de faire le parrain, personne t'en voudra de pas être un voyou. On t'en voudra de faire le voyou si t'en es pas un. Sommeil inexistant, entre la play et l'ordi. Je me réveille d'une sieste où j'ai à peine dormi. Il est 6h30, perdu dans la rue. Comme un chèque en bois, je marche vers et au mur. Et je vois des gens bourrés, au 53, de la rue Quincampoix. Je pense à ma meuf, mais gros le bif. Je suis censé être un mec de test, et là j'achète des jus bio à 9 euros le litre. Je vais te quitter le quartier et remplir mes comptes. Maintenant que je suis devenu un bobo, je crois que j'ai honte. Paris c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je la ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave ma nôtre. Paris c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je la ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave ma nôtre.
Les élèves ont choisi de parler des valeurs aujourd'hui, et celle de l'engagement, même si le mot ne leur plaît pas toujours, cette notion est bien présente. À Châtillon-sur-Seine, Agathe et Zachary se sont engagés à 16 ans chez les pompiers.
La force des secours, rejoignez-la, pompiers.fr.
Bah déjà, ça fait un an que je suis pompier volontaire, mais j'étais déjà JSP avant, jeune sapeur-pompier, donc depuis 4 ans. Et c'est mon frère qui l'a été avant moi, donc c'est un peu lui qui m'a ouvert la voie sur les jeunes sapeurs-pompiers. C'est une formation de 4 ans sur les samedis matins. C'est de la formation théorique, mais aussi pratique.
Moi, je suis pompier depuis à peu près 6 mois. J'étais JSP pendant 4 ans avant à Châtillon. Et c'est parce que ma mère, elle est pompier, et du coup, depuis que je suis tout petit, j'ai vu ce monde-là et j'ai vraiment trouvé ça intéressant.
Alors moi je suis au centre de Recey-sur-Ours, donc je suis pas à Châtillon, on sort moins, mais oui j'ai fait des interventions déjà, donc je suis souvent à la caserne pour l'entretien et tout. Nous les manœuvres c'est le vendredi soir.
C'est quel type d'intervention que tu fais ?
Presque toutes les interventions, on fait les incendies, les secours à personne, opérations diverses. On peut juste pas faire les accidents de la route en étant mineur et les suicides.
Les accidents de la route, les suicides, est-ce qu'il y a des formations spécifiques ?
Pour le secours routier, c'est 5 jours de formation qu'on peut faire une fois en étant majeur. Et donc en sortant des JSP, en fait, on a validé plein d'items déjà, donc on a plein de formations à ne pas faire, parce que c'est énormément de semaines de formation quand on veut devenir sapeur-pompier volontaire en étant majeur, en fait. Et du coup, nous, on a plein de choses de valider. On doit juste refaire 2 jours de formation incendie, une fois majeur, le secours routier. Et voilà.
Vous voulez en faire votre métier ?
Moi, personnellement, je veux rester volontaire. Mais après, pourquoi pas envisager une voie professionnelle ?
Pareil, c'est pas forcément mon objectif maintenant, mais ça reste une idée.
Pourquoi est-ce que vous faites ça ?
Pour les autres, déjà, parce qu'il en faut. Et c'est une manière d'être engagé auprès de tout le monde, pour le coup. Les pompiers, c'est vraiment une deuxième famille. Un univers à part, c'est trop bien. On se rend pas vraiment compte de l'extérieur, en fait, je pense, de ce que c'est vraiment être pompier. Tout ce qu'il y a, tous les trucs bien et les trucs pas bien aussi.
C'est quoi les trucs pas bien ?
Il y a des choses qui sont dures quand même. Il y a des interventions qui peuvent être plus difficiles que d'autres. Surtout en milieu rural, je sais qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chances qu'on intervienne sur des personnes qu'on connaît. Et donc ça complique la chose, vraiment. Et voilà, ça m'est pas encore arrivé, mais je sais qu'il y en a à qui c'est arrivé et c'est beaucoup plus dur à gérer pour le coup. Chez les pompiers, on travaille toujours ensemble et notamment en binôme. Donc je sais que je peux me reposer sur mes collègues s'il y a besoin. Une fois qu'on est, par exemple pour les interventions, je sais que la première c'était vraiment, j'étais stressée à mort. Mais une fois que j'étais dedans, en fait, je me suis rendu compte que je savais ce que j'avais à faire et puis c'est passé tout seul. Voilà.
On a retrouvé les tuyaux. Les lots, c'est la grande échelle. Mais on est en panne d'auto. Et on cherche la manivelle.
Agathe et Zachary à Châtillon-sur-Seine. On va rester au lycée Désiré Nisard en Bourgogne pour se tourner vers les profs, puisque leur socle de valeur concerne leurs élèves. Et la valeur de l'éducation, éducation au sens large bien sûr, mais éducation aux médias, est devenue fondamentale. Et avec la radio, une autre dimension. Isabelle Bouvet-Maréchal et Mathieu Charrier.
Il y a un vrai plus sur ce projet, c'est la prise de parole, parce que par rapport au travail sur l'image, le fait d'être sur de la parole, on est sur quelque chose qui leur permet de se dévoiler, mais sans avoir l'aspect apparence, quoi. Ils sont montés en compétences très clairement. On l'a vu encore là tout à l'heure quand on a réalisé les différentes parties des reportages qui manquaient.
Et puis qu'ils soient eux-mêmes producteurs d'informations, puisque alors on a bien évidemment dans nos enseignements, on fait de l'EMI au quotidien, mais en tous les cas, ça reste la parole du professeur qui enseigne aux élèves. Ça reste des mots, alors que là, ils ont produit tout ça. Donc ça, c'est la réelle plus-value du projet Interclasse.
Étant acteurs de la production de cette information, ils sont amenés à réfléchir vraiment aux angles qu'ils vont aborder dans leur reportage, à réfléchir aux éléments qu'ils vont y insérer et à faire du tri aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont devenir périphériques et qu'on va éliminer au fur et à mesure du reportage. Ils se sont rendus compte que par rapport au flow global, il va en rester que quelques éléments et qu'il va falloir vraiment donner du sens à tout ça. Cette génération qui est confrontée aux réseaux sociaux, où chacun derrière son petit écran a l'impression de devenir quelque part détenteur d'une vérité, d'une information, d'une image qui devrait bouleverser des milliers de personnes, etc. etc. Et en réalité, c'est pas juste en balançant comme ça une image avec trois mots dessous qu'on devient journaliste. Finalement, nos cours restent, malgré toutes les techniques qu'on peut y apporter, ça reste malgré tout théorique et aride, alors que là, ils ont été au cœur de cette mécanique et c'est eux qui ont vraiment, de bout en bout, mené la démarche. La plus-value, elle est immense là-dessus. Parce que nous, d'abord, en tant que prof, on se décentre, on n'est plus dans le vertical, on n'est plus dans le frontal avec nos élèves et à détenir une parole qui devrait être la vérité et simplement à la diffuser. Mais comme elle va passer à travers les étudiants, elle va passer à travers les journalistes, à travers les professeurs, et entre eux, eh ben, en fait, ils apprennent les uns des autres. Et c'est ça qui est aussi assez, assez magique. On change de regard et on sort du cadre classique de la classe, et là aussi, il y a une plus-value très intéressante.
En fait, c'est ça, les élèves sortent de leur rôle d'élève, en fait.
À Wattrelos, aussi en zone prioritaire dans le département du Nord, les enseignants sont très investis dans l'éducation aux médias. Et tenez, on va jouer les indiscrets et pousser la porte de la salle des profs pendant la récré des élèves. Venez, venez, venez. J'aimerais ouvrir une parenthèse dans cette interclasse, puisqu'à Wattrelos, justement dans la nuit du 28 au 29 juin, le CDI du collège Émile Zola, tout près de la salle des profs où nous étions à l'instant, a été incendié, entièrement détruit par les flammes. Un acte qui s'inscrivait dans la violence qui a suivi la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre deux jours plus tôt. Ce centre de documentation et d'information de Wattrelos, cette médiathèque du collège, accueillait des jeunes qui se sentaient discriminés, marginalisés, oubliés dans une ville où ne se passe pas grand-chose, disait-il. Ce CDI, c'était donc des traces de culture et l'endroit où Prune et Héloïse ont travaillé toute l'année avec les élèves autour de l'information et de leur expression. Comment dire ce qu'ils veulent exprimer ? Les auteurs de cet incendie volontaire savent-ils que les principales victimes sont justement les jeunes de ces quartiers ? Qu'une infrastructure qui leur a été dédiée est entièrement détruite ? Était-ce le but dans le fond ? Condamner ces jeunes à l'ignorance et l'errance, décourager des profs investis dans le quartier et disposant de moyens sommaires, casser le peu de ce qui est mis à disposition. c'est inqualifiable. Toutes nos pensées, évidemment, pour l'équipe du collège, et puisque nous sommes dans une émission sur les valeurs, celle de la solidarité prend tout son sens ici.
Cyril, c'est une tradition chez les profs pendant la récré de jouer Eagles.
Je vais demander à M. Billet, c'est une tradition instaurée par M. Billet.
On a instauré ça l'année dernière avec ce cher collègue Eric de physique, illustre guitariste. Et, moi, je suis en musique au collège, du coup.
Vous faites ça à chaque récré ?
Le jeudi.
Ah, le jeudi.
Les récrés chantantes du jeudi matin, c'est ça.
D'accord. Ouais. Donc, entre
on
vous,
s'est
entre
dit
les
un
profs.
Moment, on valorise toute l'année les élèves. Là, on a eu envie de valoriser les profs. Aussi.
Voilà. Et vous jouez Eagles, pas tous les jeudis, quand même ?
Non, c'est un morceau différent à chaque fois. Donc, on accumule un petit répertoire. Et puis, pour le pot de fin d'année, a priori, on saoulera tout le monde avec un concert d'une heure et demie.
C'est rigolo.
Voilà.
Autre zone prioritaire, collège Larabière à Joué-les-Tours en Indre-et-Loire. Et les élèves SECPA de ce collège, très courageux, ont décidé de parler d'un sujet qui concerne évidemment la vie adolescente, la sexualité en éveil, à l'âge où tout se joue et entre dans le cercle des valeurs.
Ce sujet a été retenu parce qu'il nous intéresse en tant qu'adolescents et on est dans la période auquel on peut débuter nos premières relations sexuelles. D'autant plus que la sexualité, c'est un peu un sujet tabou et qu'il passe à la radio, ça pourrait aider à tranquilliser chacun.
Alors, pas de stress, hein, tout ça. De toute façon, on ne peut pas nous forcer à prendre une contraception. C'est vraiment selon nos propres choix. À un moment donné, alors si c'est, je sais pas, à 20 ans ou à 18 ans.
Ça, ou
c'est...
à 30 ans.
Ou à 30 ans, si on a envie.
Ou à 30 ans.
Ou pas, d'ailleurs, ouais, t'as raison. Donc ça dépend vraiment...
À matin du mois d'avril, au planning familial du centre-ville de Joué-les-Tours, près de Tours. C'est là que débute notre enquête sur la sexualité chez les adolescents. On a posé nos micros dans un atelier sur les contraceptions. Tous les sujets sont abordés.
Donc, une autre utilisation, cette fois-ci sans l'anneau, on le jette, on le met à la poubelle, et comment tout simplement, on vient le poser sur le pénis.
Mais ça fait très gros.
Ouais.
Et pour un petit pénis.
Ce qui va se passer, c'est que pendant la première pénétration, le préservatif va venir se caler dans le vagin. Et donc, il va rester calé comme ça.
Au planning familial, deux personnes ont accepté de répondre à nos nombreuses questions.
Je m'appelle Audrey Girard, je suis salariée au planning familial en tant que chargée de projet et animatrice de prévention.
Et moi, je m'appelle Manon Gassé, je suis en stage au planning familial et à côté, je suis en master de santé publique.
C'est vrai qu'on peut avoir parfois encore dans l'idée que le planning familial va plutôt s'adresser aux femmes plutôt jeunes, adolescentes. En réalité, nous, on rencontre vraiment tout le monde.
Nous aussi, on leur a posé des questions sur l'âge des premiers rapports sexuels, sur le consentement, les moyens de protection, de contraception, sur l'efficacité, notamment celle de la contraception d'urgence.
La contraception d'urgence la plus connue va être sous forme de pilules, de comprimés qu'on va prendre, donc on va pouvoir trouver en pharmacie. Plus cette contraception est prise tôt, plus elle est efficace. Elle peut être prise à la suite d'un rapport à risque qui n'a pas été protégé ou mal protégé, c'est-à-dire peut-être un préservatif qui a craqué, par exemple, ou après l'oubli d'une pilule, par exemple. Et d'ailleurs, la contraception d'urgence, depuis le 1er janvier 2023, est gratuite pour tout le monde, dans n'importe quelle pharmacie. Donc n'importe qui, mineur, majeur, peut bénéficier d'une contraception d'urgence.
Nous sommes allés aussi à la PMI, où nous avons rencontré Émilie Cruel. Elle est sage-femme. Mais c'est quoi la PMI ?
Ça veut dire la protection maternelle et infantile.
On a voulu savoir si une grossesse était plus risquée pour une adolescente que pour une adulte.
À partir de 15 ans, il n'y a pas forcément plus de risques au niveau de la physiologie qu'une femme adulte. Par contre, ça va être plus sur les problèmes dus à des difficultés sociales. Donc souvent, il y a quand même... Une grossesse chez une adolescente entraîne plus d'isolement. Il peut y avoir un rejet, c'est-à-dire que les copains et copines ne s'y retrouvent plus dans la relation avec la jeune fille. Il peut y avoir des dépressions, il y a du stress, de la violence. Donc ça entraîne plus de complications justement au niveau des grossesses. C'est souvent des jeunes filles qui se font aussi moins suivre qu'à l'âge adulte, donc qui respectent moins tous les soins prénataux. Donc, on va dire que c'est les conséquences de tout ça, plutôt que le corps en lui-même.
Retour dans notre collège pour comprendre comment se met en place cette éducation. On a d'abord posé la question à Benjamin Voinard, professeur de SVT au collège Larabière.
Alors il y a une partie très scientifique, très biologique, dans laquelle on étudie les différents organes qui sont impliqués dans la reproduction et les sexualités, donc chez la femme avec l'appareil reproducteur féminin, puis chez l'homme avec l'appareil reproducteur masculin. Donc c'est l'occasion de parler du développement de la grossesse, mais aussi de questions qui touchent certaines personnes de plus près, comme par exemple les règles chez les filles. Puis il y a une deuxième partie, ensuite, où là, on va aborder des problèmes qui touchent plus au quotidien, avec les moyens de contraception, les maladies sexuellement transmissibles. On parle aussi d'orientation sexuelle, avec l'homosexualité, l'hétérosexualité, la bisexualité. Et on parle aussi, bien sûr, des réseaux sociaux, et puis d'une question essentielle, qui est le consentement.
Et ça se passe bien ?
Alors, je dois avouer que la première fois, avant mon tout premier cours sur le thème de la sexualité, j'avais un petit peu peur que les élèves soient très énervés, qu'ils disent des grosses bêtises sur ce thème-là. Et en fait, je me suis très vite rendu compte, et ça, dès le premier cours, et ça s'est jamais démenti par la suite, que c'était un thème qui intéressait tellement tout le monde que finalement, ça fait partie des cours qui se déroulent le mieux.
La sexualité, les jeunes l'apprennent de plus en plus à travers la pornographie. 35% des jeunes ont regardé leurs premières images pornographiques à 11 ans, ou même avant 11 ans, nous explique l'infirmière de notre collège.
L'accès est tellement facile qu'on pense qu'un film pornographique, c'est le mode d'emploi au niveau de la sexualité. Et c'est ce qui perturbe un peu l'image de nos jeunes. C'est une femme soumise, elle subit des violences, et c'est comme si elle appréciait de subir des violences. Donc l'amour, la sexualité, ce n'est pas du tout la pornographie. Et malheureusement, c'est ça qui enquiste un peu l'image, les idées reçues de nos jeunes.
Et le réflexe des SECPA de la Rabière à Joualitour d'en parler est donc salutaire, avec à leur côté Sarah Chevalier de l'EPJT, l'école de journalisme de Tours.
Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Ou si sereine, ou fais-tu juste la guerre? La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre devient loup, ça part.
Seul, seul, seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. La peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Où es-tu sereine, où fais-tu juste la guerre? Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine.
Seul, seul, seul. Je veux être seul. Seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. La mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me perce et dont je plonge. Dans les profondeurs de mes songes, je nage, me noie dans la pénombre. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na.
Seul, seul, seul. Je veux être seul.
Louche, pas vraiment seule, mais avec les Yakuza pour se prendre la tête sur ce dilemme. Surtout que, s'agissant des valeurs, le thème retenu par nos élèves interclasses aujourd'hui, l'amitié, s'impose nettement. Mais il existe plusieurs amitiés, et l'univers numérique en a inventé une autre, le virtuel. Deux collégiennes d'Émile Zola, à Waterloo, ont souhaité en faire une chronique.
Salut Jamesy.
Coucou Ménélise, ça va?
Oui, ça va. Viens, on va jouer à un jeu sur mon ordi. Tu connais FIFA?
Non, c'est quoi FIFA?
C'est un jeu en ligne où on peut jouer au foot.
Et c'est tout?
Bah, et faire des matchs aussi avec les autres.
Ah bah ok, je veux pas essayer.
Ah attends, il y a ma copine Laurine qui essaye de nous rejoindre.
Ta copine, c'est qui?
C'est Laurine, je l'ai rencontrée sur un autre jeu en ligne et depuis c'est devenu ma copine.
Ça fait combien de temps que vous vous connaissez?
Ça va faire environ 3 ans.
Ah et t'en as d'autres des copines virtuelles?
Oui, j'en ai 3. On se parle souvent le soir vers 17h30 pour parler de notre journée et tout ça. Et toi, t'en as des amitiés virtuelles?
Non, moi j'en ai plus. On s'était rencontrés sur les réseaux sociaux, mais comme c'est pas des personnes que je peux voir tous les jours et qu'il faut forcément envoyer un message pour avoir un contact avec eux, bah on a arrêté de se parler et voilà. Mais toi, tu crois vraiment que l'amitié virtuelle, c'est pareil qu'une amitié réelle?
Moi, je trouve que l'amitié réelle, c'est mieux que l'amitié virtuelle parce que on peut se voir, on peut se parler et voilà.
Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'était Shemsi
et Ménélis
du collège Émile Zola à Waterloo pour le projet Interclasse.
Les objets connectés font partie intégrante de nos vies, pour nous, génération née avec le numérique. Par exemple, on utilise beaucoup les montres connectées, les téléphones, les enceintes, les écouteurs, etc. On n'a presque jamais vécu sans. Que pensez-vous de cette utilisation par nous les jeunes? Est-ce qu'il y aurait des risques?
Karina Chatin et Jennifer Albaz de la CNIL sont là pour répondre à Emeline.
Alors effectivement, les jeunes ont de plus en plus de montres connectées et au-delà de ça d'ailleurs, on peut constater que dans chaque appart ou chaque maison, il y a de plus en plus d'objets connectés hein, qui envahissent notre quotidien. Alors s'agissant des montres connectées, bien sûr, les parents offrent une montre connectée à leur enfant pour plein de raisons. Déjà pour effectivement savoir un peu où ils se trouvent, pour aussi peut-être mesurer leur état de santé, les inciter à faire du sport, etc., etc. Sauf que derrière tout ça, on voit bien qu'il y a une tentation de pouvoir espionner son enfant, de le suivre en permanence, notamment grâce à la géolocalisation. Or, on sait que la géolocalisation, c'est quelque chose de très intrusif. Et donc, le conseil qu'on peut donner, c'est vraiment qu'il y ait un dialogue qui se rétablisse entre les parents et les enfants pour que l'enfant n'ait pas l'impression d'être espionné tout au long de la journée, parce qu'en fait, il va avoir du mal ensuite à s'autonomiser, à grandir dans le monde numérique. Et puis, surtout, un enfant qui est toujours, surveillé de manière constante par ses parents, il aura plus confiance en ses parents. Et donc, il va avoir des stratégies de contournement. Et donc, l'idéal, c'est que vraiment, on ait une vraie discussion dans la famille autour de ces objets connectés, de ces montres connectées. Et puis aussi, la dernière chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que les objets connectés peuvent présenter des problèmes de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut bien penser, lorsqu'on achète une montre connectée ou un autre objet connecté, à paramétrer l'objet, à installer toutes les mesures de sécurité possibles. Parce que qu'est-ce qui peut se passer, en fait? Eh bien, il peut se passer que les données personnelles de l'enfant ou du jeune, eh bien, elles soient exportées ailleurs qu'en Europe et du coup, beaucoup moins protégées. Et que une entreprise ou quelqu'un de malveillant puisse réutiliser ses données personnelles dans une mauvaise intention, par exemple faire une usurpation d'identité. Et donc voilà, il faut bien penser à sécuriser les objets connectés et évidemment les montres connectées en font partie.
Par rapport à la géolocalisation, ce dont il faut se rendre compte de manière très tangible, c'est que être géolocalisé tout le temps, quand un pirate accède à cette information, à la géolocalisation, le pirate sait où on habite, où on va à l'école, par exemple, les habitudes qu'on peut avoir, parce que, en fait, on se rend bien compte en regardant la base de données, la géolocalisation, que le lundi, on rentre à la maison plus tôt, le mardi, on part plus tard, etc. En fait, on donne accès à des informations personnelles, puisque l'adresse est une donnée personnelle, mais surtout des données personnelles qu'on n'a pas envie de révéler à tout le monde.
Absolument pas flippante, Jennifer. Merci beaucoup. La CNIL, incarnée par Jennifer Albaz et Karina Chatin dans Interclasse. À la semaine prochaine.
Interclasse, une émission d'Éric Valmire et Fanny Léonore Crouzet, réalisée par Lilian Alaume, composée par les élèves d'Interclasse et Valentine Chédebois.